نثبات كلمه تلت فاصا الحيطه يوكا تمت ميموت
Et à la une en Israël, il va être bien sûr question du conflit qui oppose les États-Unis et Israël face à l'Iran. Et puis, on va aussi évoquer avec notre invité, eh bien, Israël, vous le savez, n'a pas qu'un seul front à défendre vis-à-vis de l'Iran. Il y a aussi le Liban, il y a aussi la Judée-Samarie. Enfin bref, on fait le point ce matin avec vous, Ava Merji, avec notre invité qui n'est autre que Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Alors, Benjamin Netanyahou a prévenu hier soir que la guerre contre l'Iran n'était pas terminée. On a vu encore aujourd'hui pas mal de tirs de missiles vers Israël juste avant Pessah qui ont fait des blessés, de nouvelles frappes israéliennes en Iran aussi, notamment pour prévenir la production d'armes chimiques. Quelle cible on peut encore viser pour faire plier le régime des Mollahs ?
Il y a deux cibles. La première, c'est en ce moment Israël est en train de décider si frapper les intérêts économiques et énergétiques de l'Iran, donc les usines, les intérêts pétrolifères, les usines chimiques. On en a déjà frappé quelques-unes ces derniers jours, mais on considère que maintenant les cibles militaires ont plus ou moins été détruites, et c'est maintenant donc aux cibles économiques qu'il faut s'en prendre pour affaiblir le régime de façon financière. Et le deuxième point, c'est le détroit d'Ormuz. Et là, on apprend que peut-être que les Émirats vont entrer physiquement, militairement dans la danse et forcer donc le blocus du détroit d'Ormuz.
Et voilà, on parle depuis longtemps de la chute du régime iranien qui ne s'est pas produite. Hier soir, Benjamin Netanyahou a été optimiste. Il a dit le régime tombera tôt ou tard. Ça fait 33 jours, mais on n'y est pas encore.
Oui, ben, vous avez dit 33 jours pour faire chuter un régime d'un pays immense, puissant et très armé. C'est très peu. Et donc, surtout que ce régime est là depuis plus d'un demi-siècle. Et donc, ça va prendre du temps. Le régime ne va pas tomber en 5 minutes, mais il finira par tomber si on s'obstine et si on s'entête et si on ne se dégonfle pas. Alors, à savoir si Donald Trump et la Maison Blanche mettent à un moment donné fin à leur offensive, si les Israéliens continuent. En tous les cas, le jour approche où les conditions seront suffisantes pour que le peuple puisse descendre dans la rue ou pour un coup d'État, par exemple militaire de l'armée régulière iranienne ou d'autres opposants au régime. On approche du but, il faut maintenant mettre les conditions, car on va pas nous faire chuter le régime doit chuter à l'interne, il faut juste créer l'environnement et les conditions pour que les Iraniens fassent chuter ce régime. Mais à mon avis, d'ici un mois, si on continue au même rythme intense de bombardement et d'élimination ciblée et de désorganisation de ce régime, il faut pas oublier qu'il y a une débandade, il y a des désertions, il y a des scissions, il y a un chaos qui règne en ce moment au sein du gouvernement iranien et au sein des gardiens de la révolution, dont certains en Iran vont profiter dans l'opposition ou même à l'intérieur. Il y a des ambitieux qui vont voir leur chance ici de prendre le pouvoir.
Mais Benjamin Netanyahu en a profité aussi pour faire du teasing sur ces nouvelles alliances qui pourraient se créer après la fin de ce conflit. Ça peut être quoi, des alliances avec qui ?
Alors, avec les pays arabes, elles sont en fait là, mais elles sont discrètes, elles ne sont pas officialisées. Elles sont là pour le temps de guerre. Ça ne veut pas dire qu'une fois que le conflit s'achève, on va signer des accords de paix. Mais pour l'instant, il y a une coopération très étroite entre les pays arabes, dont donc l'Arabie Saoudite en tête, mais aussi alors les Émirats bien sûr, mais aussi le Koweït, Oman. Donc une coopération étroite entre les Israéliens et ces pays. On en veut pour preuve, à part les aides logistiques et technologiques israéliennes qui leur rapportent, ce qu'on appelle la paix du silicone, la Pax Silica, c'est en fait l'OTAN électronique du Proche-Orient, c'est-à-dire un cloud, un nuage commun aux pays arabes et à Israël, grâce auquel on peut échanger des renseignements, on peut gérer avec l'intelligence artificielle des problèmes militaires tactiques, et donc là il y a une coopération de tous les instants de ces équipes israélo-arabes.
Mais alors, même si Israël poursuit, comme vous dites, à ce rythme, avec des bombardements pendant un mois, Donald Trump, lui, parle de 2 ou 3 semaines, ça ne veut pas dire forcément qu'Israël en a terminé. Il y a encore le Liban, notamment, ça ne veut pas dire que ça se terminera au même moment.
Oui, et le Liban, ça durera plus longtemps. Paradoxalement, la frange, la faction terroriste de guérilla urbaine de Hezbollah, à mon avis, va causer beaucoup plus de problèmes à moyen et long terme que l'immense Iran. D'abord parce qu'ils sont juste aux portes évidemment d'Israël et qu'il leur suffit d'armement plutôt artisanal, oserais-je dire, pour créer le même chaos et la même menace que les Iraniens, eux, à distance, doivent créer avec des armements extrêmement sophistiqués et coûteux. Et en plus, le Hezbollah est bien implanté au sein du Liban, avec des tunnels, des entrepôts, des caches. Il faut considérer que le Hezbollah, c'est 10 fois le problème du Hamas, et donc aussi 10 fois la menace que posait à l'époque le Hamas. C'est quelque chose, on l'a vu hier, nous avons perdu 4 soldats dans cette défense du nord d'Israël. C'est un problème, à mon avis, qui va être assez dur à résoudre.
Et les Houthis dans tout ça, on a vu qu'aujourd'hui ils avaient mené une nouvelle attaque contre Israël. Est-ce que c'est une menace qui est à prendre en compte aussi ou qui est moindre désormais?
Alors absolument, parce que d'un côté, de même que le Hezbollah, en fin de compte, ils ont une pression du patron iranien d'entrer dans la danse. Ils tâtent le terrain, en général ils font toujours comme ça. Si on regarde par le passé, ils commencent toujours par des tirs sporadiques, un coup par-ci, un coup par-là, pour étudier un petit peu la réaction israélienne, pour voir où on en est, et là ils se mettent le doigt dans l'œil, parce que dès que leurs tirs vont devenir plus intenses, eh bien la réponse israélienne sera très 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 violente, disproportionné, comme on aime à dire, c'est-à-dire qu'il y a une banque de cibles qui a été fixée par les Israéliens. Les Houthis savent exactement que si ils exagèrent, entre guillemets, donc parce que un missile vers El Al, c'est déjà une exagération, mais il y a une ligne rouge à partir de laquelle les Israéliens ont promis et garanti aux Houthis des frappes extrêmement sévères qui mettront à genoux l'économie du Yémen.
Voilà, donc aujourd'hui, cette attaque, ce missile des Houthis n'a pas fait de blessés, mais il faut rester vigilant, comme l'a dit le porte-parole de Tzal, surtout donc pour cette période des fêtes de Pessah, avec déjà ce matin plusieurs attaques du Liban, de l'Iran et venues du Yémen. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalmi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement militaire de Tzal. Merci et bonne fête, Rakhsameach.
See you next time.